Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Vous pouvez également écouter les événements de la semaine qui sera suivi par l'interview avec Monsieur Philippe de la Suisse. Et pour le programme suivant, vous allez écouter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter notre rubrique courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Les eaux de l'Asie ne peuvent être la zone de la piraterie comme en Somalie. Selon le ministre indonésien de la Défense, Sukhoi Su-35 continue les aéronefs précédents. Coopération entre le Parlement de l'Indonésie et celui de la Turquie. L'engagement de l'entreprise de l'huile de palme de prévenir les incendies de forêt et de terre. La danse et l'alimentation de l'Indonésie ont été promus en Russie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre indonésien de la Défense, M. Ria Mizardiakudu, encourage les pays de l'ASEAN d'augmenter les patrouilles conjointes dans les eaux territoriales afin de ne pas être la zone de la piraterie comme en Somalie. Il a été déclaré par le ministre indonésien de la Défense récemment, répondant à la question d'un journaliste lié à la piraterie qui se produit dans le détroit de Malacca et les eaux de l'ASEAN ces derniers temps. Le détroit de Malacca et la mer qui relie les pays tels que l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei Darussalam et les Philippines. Il ne devrait pas se produire comme en Somalie, la zone de la piraterie, a déclaré M. Ria Mizardiakudu. À cette fin, il demande aux membres de l'ASEAN de renforcer les patrouilles conjointes dans la région et continue à mener une coopération interétatique autour de ces eaux. Le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizardiakudu, a déclaré que l'achat de Sukhoi Su-35 était les efforts pour maintenir la viabilité des technologies de l'achat d'avions Sukhoi des modèles précédents par l'Indonésie. Il a été déclaré par Ria Mizardiakudu vendredi à Jakarta, répondant à l'achat prévu d'une escadron de Sukhoi Su-35 de la Russie. La signature de l'accord est prévue d'être assistée par le président Joko Widodo lors d'une visite en Russie à la mi-mai 2016 pour assister à la réunion ASEAN-Russie. Il a ajouté la relation entre les deux pays était actuellement équivalente à la relation de l'Indonésie avec les États-Unis, la Chine et d'autres pays. L'ambassadeur turc Zekeriya Akçam espère que le Parlement indonésien et le Parlement turc peuvent intensifier la coopération pour resserrer des relations amicales entre les deux pays. Lors de sa rencontre avec le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple de l'Indonésie, M. Hidayat Nur Wahid, a évalué que la coopération parlementaire entre les deux pays était très importante. La visite de Zakaria à Hidayat Nur Wahid vise à dire au revoir parce que son mandat en Indonésie prendra fin en juin 2016. À cette occasion, Zakaria a déclaré qu'il était très intéressé par le développement politique et le Parlement de l'Indonésie. Il espère que les relations entre le Parlement de l'Indonésie et de la Turquie sont meilleures pour apprendre et comprendre mutuellement. Cependant, le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, M. Hidayat Nur Wahid, a bien accueilli l'espoir et l'invitation de l'ambassadeur turc aux chefs et aux membres du Parlement indonésien pour visiter la Turquie. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'entreprise de l'huile de palme a déclaré son engagement à prévenir les incendies de forêt et de terre, car il est considéré plus efficace que la lutte contre le feu. Dans le cadre de cet engagement, l'Association indonésienne des producteurs de palmiers à huile, ou GAPKI, de Kalimantan Central et Triputra Agro Persada ont organisé l'action de synergie de la préparation de la prévention et la protection de terres contre les incendies. Le secrétaire de l'Association indonésienne de producteurs de palmiers à huile, ou GAPKI, de Kalimantan Central, M. Halin Ardi, a déclaré récemment que l'action commune était l'engagement des membres de GAPKI dans la prévention des incendies de forêt et de terre. Les étudiants qui sont membres de l'Association des étudiants indonésiens en Russie ont introduit la culture et la beauté indonésienne à travers le magnifique d'Indonésie dans le parc Baku, Volgograd. L'ambassade d'Indonésie à Moscou a affirmé, lors de l'événement de magnifique d'Indonésie, les étudiants ont réussi à attirer des centaines de visiteurs en présentant la danse et les chansons traditionnelles, y compris des plats indonésiens et divers produits artisanaux, l'artisanat en cuir et le café de l'Indonésie. L'ambassadeur de l'Indonésie en Russie et en Biélorussie, M. Wahid Supriyadi, espère que cet événement peut introduire plus la beauté, l'hospitalité des habitants de l'Indonésie à la société russe, surtout Volgograd, si bien que la visite des touristes russes en Indonésie pourrait augmenter. Cependant, l'attaché commercial de l'Indonésie, Heriono Prasetyo, a soutenu ce deuxième événement et espère que les produits indonésiens exposés peuvent être plus connus largement par la communauté russe. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique des infos de l'Indonésie qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de la ville Palu, en province de l'Ouest Central. Le chef de la section de juridiction des chefs religieux du bureau régional du ministère des Affaires religieuses de Sulawesi Central, Sofiane Arshad, a dit le mardi dernier qu'il a suivi la note de compréhension entre le ministre des Affaires religieuses et le ministre de l'Environnement et des Forêts pour donner les mariés un rôle dans la plantation de 5 arbres. Dans ce programme, la mariée et le marié sont obligés de planter 5 arbres après l'inscription au bureau des affaires religieuses. Et les mariés n'ont pas seulement l'obligation de planter, mais sont également responsables de prendre soin de l'arbre. Des graines, des plants et des sites de plantation ont été fournis par le Centre pour la gestion des bassins versants et le Bureau des affaires religieuses. Les types de plantes qui seront utilisées sont des plantes ligneuses, plantes fruitières, la sève, des graines, des pots et des arbres locaux. Selon Sofiane, maintenant ces semis d'arbres sont dans les pépinières. La deuxième info vient de la province Lampung. Un bébé rhinocéros de Sumatra, ou la femelle Dicerorhinus sumatrensis, est né à la cire de Rhino Sumatra du parc national Waikambas, Lampung, le jeudi dernier. Ce bébé rhinocéros est né du mariage d'Andalas, un rhinocéros mâle étant âgé de 15 ans, et Ratu, femelle rhinocéros âgée de 15 ans, occupant du parc national Waikambas. Le directeur exécutif de la Fondation de rhinocéros d'Indonésie, Widodo Rahmono S., a dit « La naissance du rhinocéros est la deuxième naissance en Indonésie après Andatu, le premier veau de rhinocéros, né en 2012 à partir du même parent. » La naissance d'un enfant de rhinocéros est un événement important de se rappeler de Sumatra rhinocéros de Sumatra sont sur le bord de l'extinction. Total a diminué au cours des dernières décennies. Actuellement, il y a moins de 100 rhinos dans le monde qui sont situés dans les forêts à Sumatra et Kalimantan. La dernière info vient de Surabaya, en province Javaès. Le professeur de la Faculté d'agriculture, le programme d'études de la technologie alimentaire de l'Université Dr. Sutomo Surabaya, Fajar Kurnia Hartati, a fait les beignets de pelure de banane qui contiennent du calcium, des protéines et riches en glucides. Selon Fajar, la peau de banane peut être un substitut ou réduire la farine de blé comme matière première de beignet environ 20%. Il a dit que le type de peau de banane utilisée est la banane Kamplong. Les bananes Kamplong sont fréquemment utilisées par les vendeurs des fruits car ils peuvent affecter les couleurs d'être plus jaunes. Les déchets de peau de banane provenant de vendeurs des fruits sont utilisés comme ingrédients alimentaires. Concernant le processus de fabrication, il a révélé que le beignet est fait par le nettoyage de la peau, puis bouilli et des tranches de banane peu avant de faire le porridge. Répondant aux innovations, le président de l'Institut de recherche, l'unité de la recherche Unitomo, Sri Utami Adi, a déclaré « La recherche de beignets en peau de banane a contribué une liste de recherche des professeurs Unitomo qui acceptent des subventions du ministère de la Recherche et de la Technologie et de l'Enseignement supérieur. » Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs d'autistes du monde entier, voici l'histoire d'aujourd'hui, l'édition 15 mai. On va commencer 15 mai 1905, première participation féminine aux Jeux olympiques. Les Olympiques débutent à Paris dans le cadre de l'exposition universelle et pour leur deuxième édition. Ils admettent les femmes. Le premier champion sera La joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper, qui a fait 14 concurrentes et qui a battu en finale la Française Hélène Prévost. Ce jeu voit également pour la première et dernière fois de leur histoire des épreuves de sport mécanique avec l'endurance et une course Paris-Toulouse-Paris. Ces Olympiades ont un statut particulier puisqu'elles ne seront pas présentées ni reconnues immédiatement comme les Jeux olympiques. On continue le 15 mai 1988, les Soviétiques quittent l'Afghanistan. Mikhail Gorbatchev ordonne la retraite de ses troupes d'Afghanistan, tenue en échec par les Moudjahidines soutenus par les États-Unis. C'est la fin de 8 ans d'occupation soviétique, mais une guerre civile entre Moudjahidines et d'ethnies différentes éclate. En 1996, les talibans prendront Kaboul et instaureront un régime islamiste dirigé par la Mollah Omar. Ceux-ci seront renversés après l'intervention militaire américaine suite aux attentats de 11 septembre 2001. Nous terminons au 15 mai 1998 les émeutes dans plusieurs grandes villes en Indonésie. Les émeutes en mai 1998 sont les émeutes qui ont éclaté en Indonésie au 13 au 15 mai 1998, en particulier dans la capitale de Jakarta, mais également s'est passé dans d'autres domaines. Ces émeutes sont commencées à la crise financière asiatique et déclenchées par la tragédie dans laquelle 14 étudiants de l'université de Trisakti ont été tués lors d'une manifestation le 12 mai 1998. Dans les émeutes, de nombreux magasins et commerces ont été détruits par les fureurs des masses. Les plus grandes concentrations de l'émeute sont venues à Jakarta, Bandung et Surakarta. À ce jour, le gouvernement de l'Indonésie n'a pas pris aucune mesure contre les noms qui sont considérés comme la clé des émeutes en mai 1998. Cause et raison de la violence est toujours une grande confusion et la controverse remplit à ce jour. Cependant, les gens de l'Indonésie dans son ensemble ont généralement admis que cet événement est une feuille noire de l'histoire de l'Indonésie. Les amis, c'était notre histoire d'aujourd'hui. Ce soir, l'édition 15 mai. À demain.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique de la mise au point de la semaine ayant pour titre l'Indonésie obtient le certificat européen du bois de forêt légal.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
La réalisation de l'accord d'exportation de produits du bois légal d'Indonésie avec l'Union européenne améliore la diplomatie d'Indonésie. Comme premier pays qui obtient la pleine confiance des pays européens, l'Indonésie a la grande chance de mettre le marché du produit du bois mondial. Comme affirmait le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, en ce qui concerne la réussite de la négociation de la licence de l'application des réglementations forestières gouvernance et échanges commerciaux, soit FLEGT. Un tel accord est obtenu lors de l'entretien entre le président Joko Widodo et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Bruxelles, en Belgique, en avril dernier. Maintenant, l'Indonésie se trouve à la dernière étape d'obtenir la licence FLEGT. La semaine prochaine, le 18 mai 2016, à Bruxelles, l'entretien du comité d'implémentation conjoint entre l'Indonésie et la Commission Unie européenne va se dérouler. Selon Retno, si la licence FLEGT est valide dans quelques mois, l'Indonésie devient le premier pays au monde qui possède cette licence, que le produit du bois d'Indonésie est respectueux de l'environnement et durable. Comme affirmait le ministre Retno Marsudi lors d'une conférence de presse conjointe de quatre ministres, à savoir le ministre de l'Environnement et des Affaires forestières, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Finance et le ministre de l'Industrie, sur la licence FLEGT entre l'Indonésie et l'Union européenne jeudi dernier à Jakarta. Cependant, le ministre de l'Environnement et des Affaires forestières, Siti Nurbaya, a expliqué que le point principal de l'accord FLEGT entre l'Indonésie et l'Union européenne est dans le système de vérification de légalité du bois, soit SVLK, qui facilite le commerce du bois d'Indonésie aux pays de l'Union européenne. Même l'exportateur peut profiter SVLK pour vendre le bois aux autres pays avancés comme les États-Unis et le Japon. À la même occasion, le ministre du Commerce Thomas Lembong a expliqué le processus du système de vérification de la légalité du bois qui peut être couplé avec le FLEGT ou le temps de rencontrer une route sinueuse. En fait, la coopération avait menacé de ne pas continuer parce que l'exception des meubles de l'obligation de suivre le système de vérification de la légalité du bois. Plus tard, le ministre du Commerce, Thomas Lembong, a restauré les voies du mécanisme du SVLK par l'intermédiaire du règlement du ministre du Commerce numéro 25-2016. On estime qu'avec l'adoption de SVLK, les exportations des meubles et des produits du bois vers l'Union européenne vont monter en flèche. En effet, les produits indonésiens peuvent entrer dans l'Europe sans passer par l'inspection, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais d'inspection et d'accélérer la livraison et de réduire les coûts. Cependant, le ministre de l'Industrie, Saleh Husin, est optimiste que la synergie des quatre ministères pour faciliter l'industrie du petit et moyen bois pour obtenir SVLK avant FLEGT est officiellement promulgué. À cette façon, l'Indonésie peut mieux gérer l'industrie du meuble et du bois durablement. Cher ami, c'était la mise au point de la semaine.
Chers amis, voici l'interview. Notre journaliste Tono avec M. Philippe, notre auditeur de la Suisse, qui se rend de visite à notre bureau RRI au boulevard de Medan Merdeka Barat, Jakarta. Il est arrivé pour connaître et savoir plus RRI, surtout la voix de l'Indonésie à Jakarta, l'Indonésie.
Chers amis, la voix de l'Indonésie, aujourd'hui le service français de la voix de l'Indonésie a la visite de notre auditeur de la Suisse. C'est monsieur...
Philippe.
Bonjour monsieur Philippe.
Bonjour monsieur.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
Ça marche bien votre voyage en Indonésie?
Oui, en fait je viens chaque année deux fois en moyenne en Indonésie pour affaires. Et aujourd'hui, vu que j'ai un peu de temps libre, je me suis dit pourquoi pas venir rendre visite à la voix de l'Indonésie.
Quelle est votre profession, monsieur?
Je suis spécialisé dans la cosmétique, des ingrédients cosmétiques. Et demain, il y aura donc un grand salon dans notre domaine. Et c'est pour ça que je suis ici maintenant.
Et comme d'habitude, en ici, c'est combien de temps ici en Indonésie?
La plupart du temps, quand je viens en Indonésie, je reste une semaine par voyage. Okay. Et pas seulement Jakarta, mais je vais aussi à Surabaya, à Solo, ainsi qu'à Yogyakarta aussi.
Ah, c'est-à-dire, vous, ici, en Indonésie, c'est la visite de travail de votre affaire.
Exactement, okay. Exactement.
Maintenant, c'est la question sur notre radio. Depuis quand vous écoutez notre émission, monsieur?
Je l'écoute environ depuis 10 ans. En fait, j'écoute les ondes courtes depuis bien plus longtemps, depuis déjà 30 ans. Mais j'ai découvert la voix de l'Indonésie il y a quelques 10 ans. Et on peut vous entendre assez bien, en tout cas en Europe, même avec un récepteur mondial petit, compact. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être la bonne occasion de vous rendre visite.
Et maintenant, c'est l'Indonésie et c'est le service français a aussi notre site internet. Et vous pouvez visiter notre site www.foi.co.id. Vous pouvez écouter tout le programme en français, etc.
Vous savez, je suis très high-tech, donc j'utilise beaucoup la technologie moderne. Par contre, en ce qui est en relation avec les informations, je préfère rester sur ondes courtes. Les ondes courtes, c'est ce qui m'a permis de découvrir beaucoup de pays à une époque où je ne pouvais pas encore voyager. Et, les ondes courtes passent partout. Et vous n'avez pas besoin d'Internet, vous n'avez pas besoin de satellite. Et pour moi, ça reste un médium très important.
Oh, c'est-à-dire que vous savez beaucoup les ondes courtes
voilà.
Que l'Internet.
Exactement. Donc, je vous écoute plus sur ondes courtes que sur Internet, mais je ne veux pas dire que je suis vieux jeu. J'aime aussi la technologie moderne, mais pour moi, les ondes courtes ont plus de mérite que l'Internet.
Mais ça coûte plus cher que l'Internet.
Paraît-il, je sais que les émetteurs en courte coûtent très cher, mais la chose que je puisse vous dire, c'est qu'il y a en fait beaucoup plus de gens que vous pensez qui écoutent sur ondes courtes. Malheureusement, il n'est pas possible pour vous de pouvoir savoir qui vous écoute, mais je peux vous dire qu'il y a quand même un groupe de gens qui vous écoutent.
Et maintenant, pourquoi vous écoutez notre émission et quelle langue vous écoutez souvent?
Alors, pourquoi j'écoute vos émissions? C'est pour avoir accès à vos informations locales, qui ne sont en fait pas très disponibles outre-mer. Et donc, ça me permet de savoir un peu plus de ce qui se passe donc, au niveau de la politique, de l'économie indonésienne. Mais aussi, je vous écoute pas seulement en français, je vous écoute aussi en allemand et même des fois en japonais aussi.
Ah, et vous pouvez... La langue japonaise aussi?
Oui, je parle aussi le japonais, donc ça me permet d'avoir deux avantages. D'abord, de savoir ce qui se passe en Indonésie, et ça me permet aussi donc, d'entraîner mon oreille au niveau de la langue japonaise.
Quand vous écoutez notre programme, et quelle rubrique vous intéressez?
Comme je dis, je m'intéresse surtout aux informations locales et aussi aux informations culturelles.
Culturelles.
Voilà.
Ok.
Surtout au niveau de la musique, j'aime bien la musique.
Quelle culture que vous pouvez chercher?
Culture au niveau de pouvoir découvrir les différentes facettes donc, de l'Indonésie. C'est un grand pays, il y a beaucoup d'îles, il y a beaucoup de différentes mentalités, etc. Et justement, au niveau culturel, ça me permet donc d'en apprendre plus.
Est-ce que vous vous rappelez quelle culture que vous vous intéressez après avoir écouté?
Bon, c'est difficile à dire. La chose qui m'impressionne le plus, en fait, en Indonésie, c'est, comment dire ça, l'harmonie entre les différentes communautés, qu'elles soient donc musulmanes, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient chrétiennes. Et c'est une harmonie que l'on voit pas seulement dans la rue, mais en discutant avec les gens aussi.
Donc, maintenant, il y a beaucoup d'informations à l'étranger que l'Indonésie, ce n'est pas insécure. Est-ce que vous n'avez pas peur d'aller à Jakarta ou Indonésie?
Non, en fait, bon, il y a des fois les informations tentent tend à être dramatisé. En fait, j'ai eu l'occasion de vivre en Asie, dans d'autres pays en Asie. La chose que j'ai remarquée, dès que l'on parle d'un pays qui est lointain, les informations ont tendance à être exagérées. Pour revenir à votre question, si je viens en Indonésie, je ne me sens pas du tout en danger. Je pense que c'est un pays sûr. Bon, il y a peut-être 2-3 petites précautions à prendre, mais je dis, si vous avez des précautions de base, il n'y a pas de problème.
Ok, merci. C'est la dernière question. Quelles sont vos impressions sur l'Indonésie après vous avez visité l'Indonésie?
Ça fait en fait depuis 5 ans que je viens en Indonésie, donc pour affaires. Justement, la chose qui m'impressionne le plus, c'est l'harmonie du pays entre les gens, mais aussi la beauté au niveau donc du paysage. Je suis très intéressé par les volcans. Et si j'ai l'occasion, des fois je vais rendre visite à certains volcans, mais je n'ai pas encore l'occasion de visiter un volcan indonésien jusqu'à maintenant.
Et vous avez pour le volcan, il y a le volcan très très intéressant, surtout pour les Europes. Vous connaissez le volcan de Tambora?
Oui, de nom, oui, mais je connais aussi Krakatoa. Voilà, voilà. Et puis, peut-être durant mon prochain voyage, je vais me réserver peut-être 2-3 jours pour visiter personnellement un de ces volcans.
Oui. Si vous ne savez pas, c'est le volcan de Tambora. C'est le, il y a quand ce volcan a
éruption
en Europe.
Oui.
Il y a une année sans soleil.
Je me rappelle pas, mais c'était, je crois, il y a assez longtemps de ça, mais je sais que les volcans indonésiens ont une énorme influence aussi sur la météo mondiale. Voilà.
Ok, bon, merci monsieur Abbé Philippe. J'espère que vous êtes content en Indonésie et vous trouvez beaucoup sur l'Indonésie et vous ne savez pas avant. Et peut-être vous pouvez informer à vos amis en Europe. L'Indonésie, c'est maintenant, ça va, pas de
Absolument.
Problème.
Là, je peux vous dire, vous avez en moi un ambassadeur de l'Indonésie. Oui. Donc, j'ai beaucoup d'amis et je leur recommande aussi beaucoup de venir ici.
Ok, merci.
Merci, monsieur.
Okay. Merci.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais introduire une nouvelle destination naturelle située à Banyuwangi, Java Est. C'est le village touristique de Banjar. Le village touristique qui se trouve dans le quartier de Licin est transformé en village touristique qui attire les touristes. L'étendue des rizières avec un système de terrasse ajoute la beauté naturelle de ce village. Comme la zone qui se trouve au pied du mont Ijen, Banjar est stratégique parce que passé par les touristes qui font le trekking au mont Ijen. Cette condition fait les jeunes de cette région développer le village Banjar d'être un village touristique. Ils font des chemins de randonnée passés par les rizières des citoyens dans le but de vendre le paysage qui est aussi beau comme le village touristique à Ubud, Bali. Les chemins de randonnée sont variés. Le plus long atteint 5 km. La distance entre le village Banjar et la ville de Banyuwangi est environ 15 km. On peut y aller en utilisant le véhicule à 2 ou 4 roues. Les grimpeurs de cratère Ijen peuvent arrêter un instant au village Banjar après avoir grimpé
la montagne. Après avoir arrivé dans le village de Banjar, vous ferez immédiatement les bouts de rizière dans plusieurs villages. Entre les villages sont souvent séparés par une rizière. Chaque jardin communautaire dans ce village possède beaucoup d'arbres fruitiers, tels que durian, mangoustan, rambutan, noix de coco, et il est également l'autre attraction du village de Banjar. Si vous passez les vacances dans le village de Banjar, vous serez invité à faire du trekking et voir les gens qui saignent le nira. Nira est un liquide sucré obtenu à partir des tiges de plantes comme la canne à sucre, la betterave et sorgho, et voir la présentation de Sendratari de légende Sadap Nira. Sendratari est la forme de danse sans dialogue et généralement accompagné par la musique gamelan. Vous serez également invité à voir le processus de cuisson. Le nira est transformé en différents repas prêts à manger. Vous pouvez également goûter le café utak du sucre de palme qui est servi avec le sucre brun et les gâteaux typiques du village Banjar, tels que l'éponge de kubuk, kulupan sawi, c'est le manioc enveloppé dans sucre de palme. Bon, chers amis, vous avez écouté tout à l'heure le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé « Le village touristique de Banjar, situé à Banyuwangi, Java Est ». Merci de votre fidélité et à bientôt.
Un programme sur les informations actuelles.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique de l'Indonésie en couleur. Ce soir, le sujet est le gouvernement encourage l'accélération de l'énergie et des déchets. Le besoin en énergie pour la vie de la communauté continue d'augmenter. Donc, on a besoin des innovations pour traiter les sources d'énergie alternatives qui existent. À cette fin, le gouvernement indonésien accélère le développement de l'énergie, entre autres par le traitement des déchets d'être l'énergie. Ceci est stipulé dans le règlement présidentiel numéro 18-2016 concernant l'accélération du développement de la centrale électrique à base de déchets. Il est souhaitable que ce règlement puisse donner le stimulus positif pour la sécurité énergétique à l'avenir. Le directeur général de la nouvelle énergie renouvelable et la conservation de l'énergie du ministère de l'énergie et des ressources minérales, Rida Mulyana, a déclaré que le gouvernement est déterminé à réduire les émissions de carbone, dioxyde, ainsi que l'exécution de 3 programmes, à savoir la réforme des subventions, l'accélération de l'utilisation de l'énergie renouvelable, ainsi que l'accélération du programme de traitement des déchets d'être l'énergie. En ce qui concerne la direction générale de la nouvelle énergie renouvelable et la conservation de l'énergie du ministère de l'énergie et des ressources minérales, a lancé le manuel sur les déchets d'être l'énergie récemment à Jakarta. À même occasion, on faisait la socialisation du règlement relatif au développement de la centrale d'électricité à base de déchets urbains. Le livre est souhaité d'être capable de soutenir les efforts du gouvernement pour réaliser la disponibilité de l'approvisionnement de l'énergie renouvelable à l'avenir. Sur la base de l'enquête du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales menée en 2012 et 2013, il y a le potentiel pour les déchets à la disposition finale aux grandes villes en Indonésie à produire l'électricité jusqu'à 2 gigawatts, alors que le potentiel étant exploité atteint une capacité installée de 17,6 MW, soit 0,9% du potentiel total. Selon Rida, le grand potentiel des déchets inexploités est une grande opportunité pour les investisseurs de développer les déchets d'être l'énergie électrique. Rida a dit que 7 villes ont été désignées en tant que projet pilote, à savoir Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, et Makassar. Dans certaines occasions, le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Sudirman Said, a dit qu'il encourage l'innovation dans le secteur de l'énergie avec une utilisation maximale de la nouvelle énergie renouvelable et la conservation de l'énergie qui profite directement à la communauté. Sudirman a dit que la source d'énergie en Indonésie est toujours axé sur l'énergie fossile. Cependant, les réserves d'énergie fossile sont estimées pour durer jusqu'à 10 à 13 ans à venir. C'est pourquoi l'utilisation de sources d'énergie telles que l'énergie solaire, l'eau, le vent et d'autres sources alternatives durables peuvent être une solution. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. À bientôt!
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme chaque semaine, nous présentons la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix d'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales et le rapport d'écoute, et aussi le message. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons de Dangdut chantées par Ayu Soraya. Bon, chers amis, écoutons maintenant la première chanson intitulée « Les lunettes ».
Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans la rubrique Courrier et musique. Et c'était la première chanson intitulée Les lunettes, chantée par Ayu Soraya. Et maintenant, je vais dire bonjour aux auditeurs de l'Algérie, Abdelilah Boubchir, à 05 rue Laritz, Bouchentouf, 22000, Sidi Bel Abbès, Algérie. Et aussi Merdine Mourad, boîte postale 154, Bicetif 19000, Algérie. Passons également bonjour à Farid Boumechal, rue de la Mosquée numéro 06, par de Fouras Batna, 05000, Algérie. Je vais dire bonjour aussi à Rikia Sebar, boîte postale 1551, Essaouira, Maroc. Hamidou Wambi, à PO Box 997, Tambora, Tanzania. Et Nahmouti Nouari, en Algérie. Comment ça va, mes amis? J'espère que vous êtes en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Merci de continuer à suivre nos programmes en général et le courrier en particulier. Bon, on va écouter maintenant d'autres chansons intitulées « Mat Bobby » chantées par Ayu Soraya.
Mat Bobby, aku bersumpah sampai mati, aku tak ingin berpisah.
Merci d'écouter la voix d'Ironésie diffusée depuis Jakarta. Et maintenant, je vais saluer aux amis de la France, Bernard Grondin à Saint-Ruel-du-Pont, Océan Indien, toujours en France, à Maurice Mercier, 537 rue François Guiraud, et Vincent à Courbevoie, la France. Merci de continuer à suivre nos programmes. Bon, chers amis, toute l'équipe francophone de la Voix d'Ironésie vous dit un grand merci. Bonne continuation et nous attendons de bonnes nouvelles de vous. Restez toujours en contact avec nous et à la semaine prochaine.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.